Bonjour à tous. Je vous invite à la prière. Merci notre Père, effectivement, parce que tu nous aimes et tu te révèles à nous. Tu te révèles à nous par beaucoup de manières différentes et principalement par ta parole. Nous voulons continuer d'être à l'écoute de ta parole. Merci pour ce qui nous a été rappelé encore ce matin et pour les écritures que tu nous révèles. Nous te prions de nous aider par ton esprit à accueillir ce que tu souhaites nous dire. Je te prie aussi pour les enfants, pour que tu les bénisses dans ce temps qu'ils ont ensemble, pour qu'ils puissent aussi continuer d'apprendre de toi, que tu puisses vraiment les accompagner dans leur croissance, dans tous les domaines. Au nom de Jésus, amen. Après une série de prédications sur la vie d'Abraham, dans le livre de la Genèse, je vous propose de faire une pause indéterminée, enfin, de je ne sais pas combien de temps dans le livre de la Genèse, peut-être qu'on reprendra avec Isaac. Mais pour l'instant, je vous propose de commencer une nouvelle série de prédications pour poursuivre dans l'Ancien Testament. Et donc, il s'agit du livre du prophète Malachie. Nous allons alterner donc entre le prophète Malachie et l'Évangile selon Luc pour alterner Ancien et Nouveau Testament les semaines à venir. Les prophètes ne sont pas toujours évidents à aborder parce que le rôle d'un prophète avant la venue de Jésus était de rappeler le peuple à l'ordre. Le peuple d'Israël se détournait souvent de Dieu et donc en faisant cela, il se détournait aussi des bénédictions de Dieu. Et afin de les ramener à lui, Dieu utilisait des porte-paroles, des prophètes. Il transmettait les avertissements de Dieu sans filtre, comme on dirait aujourd'hui, sans pincette, sans langue de bois. Et donc, ils annonçaient des paroles sévères, mais aussi des bénédictions à venir. L'intention de Dieu, en envoyant des prophètes, n'était pas de culpabiliser le peuple, ni de leur faire comprendre qu'ils ne valent rien, mais bien de sauver le peuple de leurs mauvais choix, leurs mauvaises directions. Lorsque l'on aborde un livre prophétique, le contexte est très important. Dieu parle toujours et il agit toujours de manière appropriée à une situation. Si vous venez chez moi un soir, par exemple hier soir, lorsque j'essaye de faire manger mes enfants, pendant qu'ils sont en train de se chamailler à table et qu'ils n'écoutent pas un mot de ce qu'on leur dit, vous me trouverez peut-être en train de crier et d'être en colère. Si vous vous basez uniquement sur cette scène pour vous faire une opinion de moi, cette image sera partielle et peut-être sortie de son contexte. Alors je ne dis pas que les parents ont toujours raison de crier après leurs enfants, on perd patience parfois un peu trop vite, quoique j'estime qu'on a pas mal de patience, mais bon, on doit toujours apprendre à être plus patient encore. On essaie de faire du mieux qu'on peut. Dans tous les cas, je voulais surtout parler de contexte. En remettant les cris et la colère dans le contexte, on comprend souvent mieux les causes. Lorsque nous lisons les prophètes, il faut faire la même chose. Remettre la colère de Dieu dans son contexte. Les prophètes sont justement envoyés pour exprimer les cris et la colère de Dieu envers un peuple qui n'écoute pas et qui se fait du mal. Dans la Bible, de nombreux passages nous montrent que Dieu est très patient, bien plus patient que nous. Alors quand il se met en colère, c'est bien qu'il y a une raison valable. Je pense que nous avons besoin de connaître ces paroles prophétiques de Dieu, car ils peuvent être aussi des repères et des avertissements pour nous, pour notre bien. Avant de lire le premier chapitre du livre de Malachie, plongeons-nous un peu dans le contexte de l'histoire d'Israël. On va commencer au 8e siècle, même si l'histoire commence avant, mais au 8e siècle, avant Jésus-Christ, Israël était déjà divisé en deux et les Assyriens font peser une menace inquiétante sur le peuple. À peu près à la même époque, Dieu envoie un prophète nommé Ésaïe. Ce prophète explique au peuple que Dieu est en colère contre eux, car ils se sont détournés de lui et ils méprisent Dieu. À cause de leur rébellion, Dieu s'est éloigné d'eux. Et donc ils sont livrés à eux-mêmes. Ésaïe annonce que les Israélites vont subir encore de l'oppression de la part des peuples ennemis. D'abord les Assyriens et ensuite les Babyloniens. Ces derniers vont déraciner les Israélites, ceux qui restent, pour les exiler à Babylone. Ils vont aussi détruire le temple de Jérusalem. Mais Ésaïe annonce aussi que l'Éternel tient ses promesses et il ne laissera pas tomber son peuple. Beaucoup de belles choses vont s'accomplir à l'avenir et le peuple sera délivré s'il lui fait confiance. Effectivement, deux siècles plus tard, des signes d'espoir apparaissent. Une partie des Israélites qui a été déportée a pu revenir à Jérusalem et même reconstruire le temple qui avait été détruit. Et quand le temple a été remis en service, il y a eu une période optimiste. Le peuple pensait que tout irait de mieux en mieux et que Dieu accomplirait enfin ses promesses de paix et de bonheur. Mais un siècle après, les promesses n'étaient toujours pas réalisées. Petit à petit, le peuple a donc oublié Dieu. Il continuait d'aller au temple et de lui offrir des sacrifices, mais sans aucune conviction. Il le faisait par tradition, sans aucun respect pour l'Éternel. C'est dans ce contexte que le prophète Malachie intervient au 5e siècle avant Jésus-Christ. Je vous propose maintenant la lecture du premier chapitre. Malachie, chapitre 1. Message, parole de l'Éternel adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob ? Déclare l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. J'ai livré ses montagnes à la dévastation, son héritage au chacal du désert. Si Édom prétend, nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Qu'ils construisent, je démolirai et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, l'Éternel est grand, même en dehors des frontières d'Israël. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient ? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due ? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. À vous, les prêtres, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom ? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé ? C'est en disant, la table de l'Éternel est dérisoire. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien ? Te fera-t-il bon accueil ? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et maintenant, priez Dieu pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement ? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel ? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et je n'accepte pas les offrandes de votre main. En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations, et partout on fait brûler de l'encens en l'honneur de mon nom. On présente des offrandes pures. Oui, Mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Mais vous, vous le déshonorez en déclarant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est une nourriture dérisoire. Vous dites, quel ennui, et vous la dédaignez, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ah, c'est la page suivante. Vous dites, quel ennui, et vous la dédaignez, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, vous amenez des bêtes volées, boiteuses ou malades. Voilà les offrandes que vous faites. Puis-je les accepter de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle et qui offre un sacrifice au Seigneur, une bête en mauvais état. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et mon nom est craint parmi les nations. Dans ce premier chapitre, Dieu veut faire comprendre, il me semble, deux choses principales au peuple d'Israël. Premièrement, Dieu a choisi d'aimer Israël. Dieu a choisi d'aimer Israël. C'est la première parole que le prophète Malachi adresse au peuple au verset 2. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Ce rappel de l'amour de Dieu est surprenant à première vue, car dans tout le reste du livre, Malachi adresse de graves critiques envers le peuple d'Israël. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le rôle d'un prophète est de parler de la part de Dieu, souvent pour reprendre le peuple. Il suffit de prendre n'importe quel des livres de l'Ancien Testament, le livre prophétique de l'Ancien Testament, et de feuilleter un peu. La plupart du temps, on tombe sur des paroles sévères de Dieu, car il n'approuve pas le comportement du peuple. Et cela nous pose question par rapport aux personnes aujourd'hui qui proclament la parole de Dieu. Si quelqu'un parle vraiment de la part de Dieu, il transmettra très probablement de belles promesses et des encouragements. Mais un serviteur fidèle et authentique aura aussi des paroles dures à annoncer. Si nous voulons vraiment entendre Dieu, nous devrions accepter aussi parfois d'être remis en question, parce que nous ne sommes pas parfaits. Chez Malachi, la première annonce concerne l'amour de Dieu. Alors que le peuple se détourne de Dieu et méprise le Seigneur, Dieu intervient et commence par dire qu'il a choisi d'aimer Israël. Et j'aime beaucoup ce rappel, car l'amour est premier. C'est par amour que Dieu envoie des prophètes. Cependant, aimer ne signifie pas forcément approuver. Aimer, ce n'est pas forcément égal à approuver. Dieu nous aime, mais est-ce qu'il approuve toutes nos décisions? Ici, Dieu annonce qu'il aime son peuple, alors que celui-ci doute de l'amour de Dieu. En quoi nous as-tu aimés? Disent-ils. Dieu répond qu'il a quand même mieux traité Israël qu'Édom. Et pour comprendre la référence, il faut savoir que les ancêtres du peuple d'Israël sont Abraham, Isaac et Jacob. Et les ancêtres du peuple d'Édom sont Abraham, Isaac et Ésaü. En fait, Jacob et Ésaü étaient frères. Mais Dieu a choisi de former un peuple à partir de Jacob et pas d'Ésaü. Et c'est pour ça que Dieu dit au verset 2 « J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü ». Ces deux hommes étaient frères. Ils ont les mêmes ancêtres, Abraham et Isaac. Mais Dieu a choisi la lignée de Jacob pour former son peuple, pas parce qu'il était meilleur que son frère, mais parce que c'était son choix. D'ailleurs, le vrai amour, ce n'est pas uniquement un sentiment, mais c'est aussi un choix, un engagement. Est-ce que nous aimons une personne seulement pour sa beauté et ses qualités? Seulement pour ça? Parce que si un jour, cette personne perd de sa beauté et devient grincheuse, que fait-on ? Quelle vision de l'amour avons-nous ? Selon la Bible, l'amour est un choix. On choisit d'aimer dans la maladie ou dans la santé, dans les beaux jours comme dans les mauvais. C'est ce qu'on entend très souvent dans les promesses lors des mariages. Alors, je ne parle pas que des cas extrêmes, des situations qui peuvent être dangereuses. Là, il s'agit d'un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que l'amour véritable ne dépend pas de la pluie et du beau temps, mais il est basé sur un choix, un engagement. Dieu a aimé Jacob et il a détesté Ésaü. À l'époque, cette manière de parler signifiait que l'on fait un choix et on écarte l'autre possibilité. On en choisit un et pas l'autre. Dieu a aimé Jacob dans le sens où il a choisi sa lignée. Et il a détesté Ésaü dans le sens où il ne l'a pas choisi. Il a fait un choix et un choix suppose que l'on écarte forcément un autre. Si j'ai le choix entre un yaourt à la fraise et un yaourt à l'abricot et que je choisis celui à la fraise, ça veut dire que j'ai écarté aussi celui à l'abricot. Il a choisi Jacob et donc il a écarté Ésaü. C'est cela que Dieu veut dire lorsqu'il dit qu'il a aimé Jacob et détesté Ésaü. Dieu aime son peuple. Il l'a choisi, même si il n'approuve pas toujours son comportement. Et donc nous allons parler maintenant du comportement du peuple. C'est la deuxième chose que le prophète transmet de la part de Dieu. C'est que le peuple, ici, est un peuple qui manifeste de l'hypocrisie. Dieu n'est pas satisfait de leur comportement. Au verset 6, il rappelle qu'il est comme un père pour eux, comme un maître. Un enfant devrait respecter son père et un serviteur devrait servir son maître. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. À l'époque, avant la venue de Jésus, Dieu demandait des sacrifices d'animaux. En fait, tous les peuples aux alentours avaient des dieux et les sacrifices d'animaux étaient courants, c'était pratiqué partout. Sauf que les sacrifices que Dieu demandait avaient des significations particulières. Certains sacrifices étaient pour demander le pardon de certains péchés. Dieu voulait leur apprendre que le pardon coûte quelque chose. Il y avait aussi des sacrifices d'offrande, des sacrifices de reconnaissance, une manière pour le peuple de manifester sa reconnaissance à Dieu. C'est comme un cadeau qu'ils font à Dieu. Les sacrifices étaient brûlés sur le parvis du temple, sur ce qu'on appelle des autels. Dieu demandait des sacrifices donc bien particuliers. Pour chaque situation, pour chaque classe sociale, Dieu demandait des végétaux ou des animaux de premier choix. Ce que Dieu reproche ici à son peuple, c'est qu'ils se sont mis à offrir des bêtes estropiées ou des bêtes malades, des bêtes dont personne ne veut. C'est comme si un homme offrait des fleurs à son épouse. Vous allez me dire, c'est bien ça. Mais des fleurs qu'il a trouvées dans les poubelles du fleuriste, car ce sont des fleurs invendables qui sont fanées et flétries. Comment réagiriez-vous en recevant un tel cadeau? Il me semble que ce cadeau est pire que si l'homme n'avait rien offert. C'est humiliant. Ce n'est pas une preuve d'amour. Si c'est pour offrir des cadeaux indésirables et humiliants, autant ne rien offrir. C'est exactement ce que Dieu leur dit au verset 10. Ils préfèrent que le temple soit fermé plutôt qu'il reste ouvert pour offrir des sacrifices humiliants et méprisants. Verset 10. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et je n'accepte pas les offrandes de votre main. Dieu met en évidence leur hypocrisie. Ils obéissent bien aux commandements. En effet, ils offrent des sacrifices Mais cela ne vient pas du cœur. Cela vient juste de la tradition. Ils le font parce qu'ils doivent le faire. Ils offrent des animaux estropiés à Dieu et ils n'approuvent pas cela. Quels sont les enseignements pour nous aujourd'hui ? Je conclus. Quels sont les enseignements pour nous aujourd'hui, nous qui ne vivons plus à l'époque des sacrifices et de toutes les règles rituelles que Dieu a instaurées avant l'arrivée de Jésus ? Quand on lit l'Ancien Testament, on a tendance à chercher une morale. Par exemple, pour actualiser ce texte, on pourrait dire « Ce texte nous enseigne que Dieu nous aime, mais il aimerait que nous le servions sans hypocrisie. » Par exemple, il aimerait que nous allions à l'église, non par habitude, mais parce que nous voulons l'adorer vraiment avec d'autres croyants. Et c'est vrai, ce texte nous enseigne cela. Ce texte nous enseigne aussi que nous ne devrions pas offrir à Dieu des restes. La valeur de notre cadeau vient de ce qu'il nous coûte. Le temps que nous donnons à Dieu, l'offrande financière pour ses œuvres, l'investissement, la louange, le service pour l'Église, le service pour notre prochain, toutes ces choses doivent provenir de notre cœur, un cœur honnête et sincère. Dieu le voit et il le sait. Plus notre offrande coûte quelque chose, plus cela a de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu sait, Dieu seul sait, lorsque quelque chose nous coûte. Ce texte nous enseigne tout cela. Mais si nous limitons à cet enseignement, nous passons à côté de l'essentiel. Pour nous qui vivons après la venue de Jésus, nous devons lire ce texte en prenant du recul et en prenant en compte l'ensemble de la révélation biblique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus. Jésus s'est sacrifié pour nous, de sorte que plus aucun sacrifice n'est nécessaire pour être agréé de Dieu. Nous pouvons être pardonnés gratuitement. Nous pouvons entrer dans l'alliance de Dieu. Son amour nous est offert. En fait, si nous reconnaissons que Jésus s'est sacrifié pour nous, c'est comme si nous avions offert à Dieu le meilleur des sacrifices, le meilleur des cadeaux. Mais ce n'est pas nous qui l'avons offert, c'est Jésus qui l'a offert pour nous à notre place. Depuis la mort et la résurrection de Jésus, nous savons que les sacrifices de l'Ancien Testament ne sont qu'une image du sacrifice parfait. Continuons d'offrir des sacrifices à Dieu, des louanges, des services, du temps pour son Église et pour notre prochain. Mais rien de tout cela n'achète l'amour et le pardon de Dieu, car tout est déjà payé, tout est gratuit. Cet amour de Dieu nous garantit qu'il tiendra ses promesses, les promesses que les prophètes comme Ésaïe ont commencé à annoncer. Il est bien celui qui apporte la paix et le bonheur, mais il le fait en temps voulu. En attendant, ne nous relâchons pas comme le peuple au temps de Malachie, mais persévérons dans le service pour Dieu, avec foi et avec un cœur honnête et sincère. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci. Merci parce que le sacrifice parfait a été offert. Merci parce que ce sacrifice, ce n'est pas nous qui avons dû le faire, mais c'est toi-même en envoyant ton Fils Jésus. Merci parce que tout est déjà payé. Merci parce que nous pouvons avoir cette relation sereine avec toi. Nous pouvons être en paix avec toi, parce que le prix a été payé. Et cela a coûté énormément. Seigneur, nous voulons avoir foi en Jésus et effectivement accueillir avec foi ta grâce. Mais nous voulons aussi le faire avec un cœur honnête et sincère. Nous voulons non seulement accepter ce cadeau, mais aussi nous laisser travailler, nous laisser transformer par ton esprit pour que nous puissions avoir une vie qui soit à ton honneur et à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.